Chapitre 2. C'est par son substitut que le lendemain matin, sur les 9 heures, le procureur de la République, M. d'Aubigeon, apprit ce qui se passait et comment des vices de forme irrémédiable frappaient de nullité le jugement qui condamnait Jacques de Boiscourant. Déjà, les défenseurs venaient de présenter en mémoire qu'ils avaient passé la nuit à rédiger. Le procureur de la République ne prenait pas la peine de dissimuler sa satisfaction. « Voilà, s'écria-t-il, ce qui va singulièrement rogner les ailes de ce cher Daveline. Je lui avais cependant cité, avec Horace, l'exemple de Phaéton. Thérèse Ambustus, Phaéton avares spes. Il n'a pas voulu m'écouter, oubliant que sans la prudence, la force est un danger. Vis concilii esper mote ruit sua. Et le voilà certainement dans un cruel embarras. » Et tout de suite, il se hâta de s'habiller et de courir chez M. Daveline pour avoir des détails précis, disait-il à son substitut, mais en réalité pour se donner le savoureux spectacle de la déconvenue de l'ambitieux juge d'instruction. Il le trouva blême de colère et s'arrachant les cheveux. « Je suis un homme déshonoré, répétait-il, perdu, ruiné. C'en est fait de mon avenir. Jamais on ne me pardonnera cette école. » Une école, une faute de conduite, une sottise. À voir M. d'Aubigeon, on l'eût cru désolé. Alors, reprit-il d'un ton d'hypocrite commisération, ce qu'on m'a dit est exact, c'est bien de vous que proviennent ces malheureux vices de forme. De moi seul, j'ai oublié de ces formalités qu'un étudiant de première année ne négligerait pas. Comprenez-vous cela? Et dire que personne ne s'est aperçu de mon inconcevable étourderie. Ni les chambres des mises en accusation, ni le ministère public, ni le président des assises n'ont rien vu. C'est une fatalité. Voilà le fruit de ma réputation. Chacun s'est dit, c'est Daveline qui a conduit la procédure, inutile de la revoir. Pas une des herbes de la Saint-Jean n'y manque. Et pas du tout. C'est à se briser la tête contre les murs. D'autant mieux, observa M. d'Aubigeon, qu'hier, l'acquittement de Jacques n'a tenu qu'à un fil. L'autre de rage grinçait les dents. « Oui, à un fil, répondit-il, et cela par la faute de M. Domini, dont la faiblesse ne se comprend pas et qui n'a pas su, qui n'a voulu tirer parti des éléments de l'affaire. Par la faute de Dulop de la Grancière aussi, qui sans mêler la politique à son réquisitoire. Et qui vise-t-il, s'il vous plaît? Magloire, l'homme le plus estimé de l'arrondissement et l'ami personnel de 3 de nos jurés. » Je l'avais prévenu, je lui avais signalé l'écueil. Mais il y a des gens qui ne veulent rien entendre. Monsieur de la Grancière veut être député, lui aussi. C'est une fureur, une monomanie. Tout le monde veut être député. Que le ciel confonde les ambitieux. Pour la première fois de sa vie, et la dernière sans doute, le procureur de la République se réjouissait du malheur d'autrui. Et prenant plaisir à retourner le poignard dans la blessure du pauvre juge, « Le plaidoyer de Maître Folga, dit-il, y est bien pour quelque chose. »« Pour rien !» Il a eu un grand succès. Succès de surprise, comme en obtiendront toujours en France les périodes sonores et les mots à effet. Cependant, qu'a-t-il dit en somme? Que l'accusation ignore le premier mot de l'affaire de M. de Boiscourant. C'est absurde. Tel peut n'être pas l'avis des nouveaux juges. Nous verrons bien. M. de Boiscourant se défendra terriblement cette fois. Il ne ménagera rien. Il est à terre, il n'a plus de chute à redouter. Qui accet in terra non abet un decadat. Soit, mais il risque aussi de trouver des jurés moins indulgents et de n'en pas être quitte pour 20 ans. Que disent les défenseurs? Je l'ignore, mais je viens d'envoyer mon greffier au renseignement et si vous voulez l'attendre... M. d'Aubigeon attendit, et il fit bien, car Méchinet ne tarda pas à paraître, la figure longue d'une aune, mais ravie intérieurement. « Eh bien !» demanda vivement Daveline. Il secoua la tête, et d'un accent mélancolique. « C'est inouï, répondit-il, combien l'opinion est inconstante. Avant-hier, M. de Boiscourant n'eut pas traversé Sauveterre sans être écharpé. Aujourd'hui, s'il se présentait, on le porterait en triomphe. » Il est condamné, le voilà passé martyr. On sait que le jugement sera réformé et on se frotte les mains. Je sais par mes sœurs que les dames de la société veulent s'entendre pour donner à la marquise de Boiscoran et à mademoiselle de Chandoré un témoignage public de leur sympathie. La chambre des avocats va offrir un banquet à maître Folga. « C'est monstrueux !» s'écria le juge d'instruction. « Bah ! » fit M. Dobigeon. « Plus incertains et changeants sont les avis des hommes que les flots de la mer. » Mais, coupant court à la citation, « Après !» fit M. Daveline à son greffier. « Ensuite, continua Méchinet, je suis allé remettre à M. du Lot de la Grancière la lettre dont vous m'aviez chargé. Qu'a-t-il répondu ? Je l'ai trouvé en grande conférence avec M. le président Domini. Il a pris la lettre, l'a lue d'un coup d'œil et m'a dit d'un ton à vous donner froid dans le dos, « Il suffit !» À parler net, malgré sa mine roi des calmes, il m'a paru furibond. Le juge eut un geste d'absolu découragement. « Il me brisera !» gémit-il. « Ces hommes qui ont dans les veines non du sang mais du fiel sont implacables !» « Vous chantiez ses louanges avant-hier. » « Avant-hier, je ne lui avais pas été l'occasion d'une mésaventure ridicule. » Déjà, Méchinet poursuivait. « En quittant M. Dulop de la Grancière, je me suis transporté au palais de justice où j'ai appris la grosse nouvelle qui met la ville en émoi. M. le comte de Claudieuse est mort. » M. Daveline et M. Dobigeon eurent une exclamation pareille. « Ah, mon Dieu, est-ce bien sûr ?» C'est ce matin, à 6 heures, moins 2 ou 3 minutes, qu'il a rendu le dernier soupir. J'ai vu son corps dans le cabinet de Monsieur le procureur de la République, veillé par Monsieur le curé de Bréchy et 2 curés de la paroisse. On attendait un brancard de l'hôpital pour le reporter chez lui. « Malheureux homme !» murmura Monsieur Dobigeon. « Mais j'ai appris bien d'autres choses, » continua Méchinet, « par le gardien de nuit du tribunal. » Hier soir, à l'issue de l'audience, apprenant que M. de Claudieuse était à toute extrémité, M. le curé de Bréchy s'est présenté pour lui administrer les derniers secours de la religion. La comtesse a refusé de le laisser pénétrer près de son mari. Le gardien n'en revenait pas quand, tout à coup, Mlle de Chandoré l'a envoyé demander de sa part à Mme de Claudieuse un moment d'entretien. Est-ce possible ? C'est sûr ! Elles sont restées ensemble un bon quart d'heure. Que se sont-elles dit ? Le gardien m'a dit qu'il mourait d'envie d'écouter, mais qu'il n'a pu le faire parce que le curé de Bréchy s'était obstiné à rester dans la salle des pas perdus. Quand elles se sont séparées, elles avaient l'air affreusement troublées. Aussitôt, Madame de Claudieuse a fait entrer le prêtre, qui est resté près du comte jusqu'au dernier moment. M. Dobigeon et M. Daveline n'étaient pas revenus de la stupeur où les plongeait ce récit lorsqu'on frappa timidement à la porte. « Entrez !» cria Méchinet. La porte s'ouvrit et le brigadier de gendarmerie parut. « Je viens de chez M. le procureur de la République, » dit-il, « et c'est la bonne qui m'a dit que je le trouverais ici. Nous venons d'arrêter Cheminot. » Ce détenu qui s'était évadé, juste, nous voulions le reconduire à la prison, mais il nous a déclaré qu'il avait des révélations à faire très importantes et très pressées relativement au condamné Boiscoran. Cheminot ? Alors nous l'avons mené au tribunal et je viens savoir. Courez lui dire que je vais l'entendre, s'écria M. Dobigeon. Courez, je vous suis. Modèle achevé de l'obéissance passive, le brigadier n'avait pas attendu la fin de la phrase pour gagner l'escalier. « Je vous quitte, Daveline, » reprit M. Dobigeon, en proie à la plus extrême agitation. « Vous avez entendu, il faut savoir ce que cela signifie. » Mais le juge d'instruction n'était guère moins bouleversé. « Vous me permettrez bien de vous accompagner, » dit-il. C'était son droit. « Soit, répondit le procureur de la République, mais dépêchez-vous. » La recommandation était inutile. Déjà, M. Galpin Daveline avait chaussé ses bottines. Il endossa un paletot par-dessus ses vêtements de chambre. Il était prêt. Suivi de Méchinet, les deux magistrats se hâtèrent de sortir et ce fut pour les bourgeois de Sauveterre un ébahissement nouveau que de voir en se négliger le juge d'instruction dont la mise, d'ordinaire, était si sévèrement correcte. Debout sur le pas de leur porte, « Il faut, se disaient les boutiquiers, qu'il soit arrivé quelque chose de bien extraordinaire. regarde un peu ces messieurs !» Et de fait, il marchait d'un pas à justifier toutes les conjectures et sans échanger une parole. Pourtant, en arrivant au palais de justice, ils furent contraints de s'arrêter. 400 ou 500 curieux emplissaient la cour, se pressaient sur les marches du perron et obstruaient les portes. Presque aussitôt, un grand silence se fit, toutes les têtes se découvrirent et la foule s'écarta, ouvrant un passage. Sur le haut du perron, le curé de Bréchy et deux autres prêtres venaient de paraître. Derrière eux, les employés de l'hôpital s'avançaient, portant un brancard recouvert d'un drap noir, et sous ce drap se dessinaient les formes rigides d'un cadavre. Les femmes se signaient, et celles qui avaient assez d'espace s'agenouillaient. « Pauvre madame de Clodieuse !» murmurait l'une d'elles. « Voilà qu'on lui rapporte le corps de son mari, et l'on dit que la plus jeune de ses filles vient de mourir. » Mais M. d'Aubigeon, le juge et Méchiné, était trop fortement préoccupé pour songer à vérifier cette dernière nouvelle. Le passage était libre, ils entrèrent et s'empressèrent de gagner la salle de greffe où les gendarmes avaient conduit et gardé leurs prisonniers. Il se leva dès qu'il reconnut les magistrats, retirant respectueusement sa casquette. C'était bien Cheminot, seulement l'insoucieux vagabond n'avait plus sa physionomie souriante. Il était un peu pâle et visiblement ému. « Eh bien, lui dit M. d'Aubigeon, vous vous êtes donc laissé reprendre ?»« Faites excuse, mon juge, répondit le pauvre diable. On ne m'a pas repris, c'est moi qui me suis livré. »« Involontairement. »« Oh, bien de mon gré, au contraire. Demandez plutôt au brigadier. » Le brigadier fit un pas en avant et s'inclinant. « C'est la pure vérité, déclara-t-il. C'est Cheminot lui-même qui est venu me trouver à la caserne en me disant « Je me reconstitue prisonnier, je veux parler au procureur de la République pour des révélations. » Le vagabond se redressa fièrement. « Monsieur le juge voit que je ne mens pas, reprit-il. Pendant que ces messieurs galopaient après moi sur toutes les grandes routes, j'étais bien tranquillement installé dans une des mansardes du Mouton Rouge et je comptais bien n'en sortir que quand on m'aurait oublié. » « Oui, mais pour loger au Mouton Rouge, il faut de l'argent et vous n'en aviez pas. » Tranquillement, Cheminot tira de sa poche et montra une poignée de pièces d'or et de billets de 5 et de 20 francs. « Ces messieurs voient que j'avais de quoi payer ma chambre, dit-il. Si je me suis livré, c'est que je suis honnête malgré tout et que j'aime mieux qu'il m'arrive un peu de peine que de voir aller aux galères un malheureux qui n'est pas coupable. » « Monsieur de Boiscourant ? » « Oui, il est innocent. Je le sais, j'en suis sûr, j'en ai des preuves. Et s'il a refusé de parler, je dirai tout, moi. » M. d'Aubigeon et M. Galpin d'Aveline étaient abasourdis. « Expliquez-vous, dirent-ils en même temps. » Mais le vagabond clignait la tête et montrait les gendarmes, et un homme très au fait des formes de la justice. « C'est que c'est un grand secret, répondit-il, et quand on est en confesse, on n'aime pas à être entendu d'un autre que de son curé. » « Ensuite, je voudrais que ma déposition fût couchée par écrit. » Sur un signe de M. d'Aveline, les gendarmes se retirèrent pendant que Méchiné s'asseyait à sa table devant un cahier de papier blanc. « Maintenant qu'on peut causer, reprit Cheminot, voilà la chose. Ce n'est pas à moi qu'est venue l'idée de m'en sauver. Je n'étais pas mal dans la prison. Voilà l'hiver qui vient, je n'avais pas le sou et je savais que si j'étais repris, ma position serait très mauvaise. » Mais M. Jacques de Boiscourant avait envie de passer une soirée dehors. « Prenez garde à ce que vous allez dire, » interrompit sévèrement M. Galpin d'Aveline. « Ce n'est pas impunément qu'on se joue de la justice. »« Que je meure si je ne dis pas la vérité, » s'écria le vagabond. « Monsieur Jacques a passé toute une soirée dehors. » Le juge d'instruction tressauta. « Quel compte nous faites-vous là, » dit-il. « J'ai des preuves, » répondit froidement Cheminot, « et je les donnerai. » Donc, voulant sortir, c'est à moi que M. Jacques s'adressa, et il fut convenu que, moyennant une certaine somme qu'il m'a donnée, et dont je viens de vous montrer le reste, je percerai un trou dans le mur et que je m'évaderai pour tout de bon, tandis que lui rentrerait après avoir terminé ses affaires. « Et le geôlier ?» demanda M. d'Aubigeon. Vrai paysan saint-ongeois, Cheminot était bien trop retors pour compromettre inutilement Blangin. Assumant toute la responsabilité de l'évasion, Le geôlier, déclara-t-il, n'y a vu que du feu. Nous n'avions pas besoin de lui. N'étais-je pas quasiment sous geôlier ? N'avais-je pas été chargé par monsieur le juge d'instruction lui-même de la surveillance particulière de monsieur Jacques ? N'était-ce pas moi qui ouvrais et fermais sa porte, qui le conduisais au parloir et qui l'en ramenais ? C'était rigoureusement exact. « Passez !» fit M. Daveline d'un ton dur. Pour lors, continua Cheminot, ce qui fut dit fut fait. Un soir, sur les 9 heures, je perce le mur et nous voilà, M. Jacques et moi, sur les anciens remparts. Là, il me met dans la main un paquet de billets et me commande de filer pendant qu'il va se rendre à ses affaires. Déjà, à ce moment, je le croyais innocent, mais, dame, vous comprenez, je n'en aurais pas mis la main au feu. Et en moi-même, je me disais que peut-être il se moquait de moi et qu'ayant pris sa volée, il ne serait pas si bête que de rentrer à la cage. C'est pourquoi, le voyant s'éloigner, la curiosité me prend et ma foi, tant pis, je me mets à le suivre. Si accoutumés qu'ils fussent par leur profession même à garder le secret de leurs impressions, le procureur de la République et le juge d'instruction dissimulaient mal l'un les espérances qui tressaillaient en lui, l'autre le vague effroi dont il se sentait saisi. Méchinet, qui savait, lui, ce qu'ils allaient apprendre, riait dans sa barbe tout en faisant voler sa plume sur le papier. Craignant d'être reconnu, poursuivait le vagabond, M. Jacques était allé un train du diable en rasant les murs et rien que par les ruelles. Heureusement, j'ai de bonnes jambes. Il traverse Sauveterre tout d'une course et, arrivé rue Mautrec, à un mur qui n'en finit pas, il se met à sonner à une grande porte. Chez monsieur de Clodieuse. Je le sais maintenant, mais alors je ne le savais pas. Donc il sonne. Une bonne vient lui ouvrir. Il lui parle et tout de suite elle le fait entrer et avec tant d'empressement qu'elle oublie de refermer la porte. D'un geste, monsieur d'Aubigeon l'arrêta. Attendez, fit-il. Et prenant un imprimé dans un carton, il en remplit les blancs. Après quoi, sonnant un huissier qui accourut, « Que ceci, dit-il en lui remettant l'imprimé, soit porté immédiatement. Hâtez-vous et pas un mot. » Invité à poursuivre, dès que l'huissier fut sorti, « Me voilà donc tout penaud au milieu de la rue Mautrec, » reprit Cheminot. « Je n'avais plus rien à faire qu'à m'en aller et à jouer des jambes, c'était le plus sûr. Mais cette coquine de porte entrebâillée m'attirait. Je me disais bien, « Si tu entres et qu'on te surprenne, on croira que tu es venu pour voler et il t'en cuira. » C'était plus fort que moi, j'en avais comme mal au cœur de curiosité. Arrive qui plante, je me risque. Je pousse la porte juste pour passer et me voilà dans un grand jardin. Il faisait noir comme dans un four, mais tout au fond, au rez-de-chaussée, 3 fenêtres étaient éclairées. J'avais trop osé pour reculer. J'avance donc à pas de loup et j'arrive jusqu'à un arbre contre lequel je me colle à une longueur de bras de ses fenêtres qui était celle d'un beau salon. Je regarde et je reconnais qui ? Monsieur de Boiscoran. Les fenêtres n'ayant pas de rideaux, je le voyais comme je vous vois. Il avait un visage terrible. Je me demandais qui il pouvait bien attendre là quand je l'aperçois qui se cache derrière le battant ouvert de la porte du salon comme un homme qui en guette un autre avec de méchantes intentions. Je commençais à être inquiet quand l'instant d'après entre une femme. Aussitôt, blanc, M. Jacques referme la porte, la femme se retourne, l'aperçoit et pousse un grand cri. Cette femme était Madame de Clodieuse. Il fit mine de s'arrêter pour juger de l'effet. Mais telle était l'impatience de Méchinet qu'il en oubliait l'humilité de ses fonctions. « Allez, dit-il vivement, allez !» Une des fenêtres était ouverte, continua le vagabond, de sorte que j'entendais presque aussi bien que je voyais. En me baissant à 4 pattes et en avançant la tête au ras du sol, je ne perdais pas une parole. C'était terrible. Dès les premiers mots, j'avais compris que M. Jacques et Mme de Clodieuse étaient amants et maîtresses. Ils se tutoyaient. « C'est insensé !» s'écria M. Daveline. Aussi étais-je tout ahuri. Madame de Clodieuse, une sainte femme. Mais j'ai des oreilles, n'est-ce pas ? Monsieur Jacques lui rappelait que le soir du crime, quelques instants avant l'incendie, ils étaient ensemble près du Val-Pinson à un rendez-vous qu'ils s'étaient donné. À ce rendez-vous, ils avaient brûlé toutes leurs lettres d'amour et c'est en les brûlant que M. Jacques s'était noirci les mains. « Vous avez entendu cela ?» interrompit M. d'Aubigeon. « Comme vous m'entendez, mon juge ?»« Écrivez, Méchiné, dit vivement le procureur de la République. « Écrivez textuellement. » Le greffier n'avait garde d'y manquer. « Ce qui m'étonnait plus que tout, poursuivait Cheminot, c'est que Madame de Clodieuse semblait croire M. Jacques coupable et réciproquement. Chacun accusait l'autre du crime. Elle disait « C'est toi qui as essayé d'assassiner mon mari parce qu'il te faisait peur. » Et lui « C'est toi qui as voulu le tuer pour être libre et empêcher mon mariage. » M. Galpin d'Aveline s'était laissé tomber sur une chaise. « C'est inouï, balbutia-t-il, inouï. » Cependant, ils s'expliquent et bientôt ils arrivaient à reconnaître qu'ils étaient également innocents. Alors M. Jacques suppliait Mme de Clodieuse de le sauver et elle répondait qu'elle ne le sauverait certainement pas au prix de sa réputation et qu'une fois sauvé, il épousa Mademoiselle de Chandoré. Alors il lui disait « Eh bien, je révélerai tout. » Et elle « On ne te croira pas, je nierai, tu n'as pas de preuves. » Désespéré, il lui reprochait de ne l'avoir jamais aimé. Elle lui jurait qu'elle l'adorait plus que jamais, au contraire, et que, puisqu'il avait réussi à s'évader, elle était prête à tout quitter pour passer avec lui à l'étranger. Et elle le conjurait de fuir d'une voix qui me troublait jusque dans l'âme, avec des paroles d'amour comme je n'en ai jamais entendu, avec des regards qui vous brûlaient. Quelle femme ! Je ne croyais pas qu'il pût résister. Il résistait cependant, et tout enflammé de colère, il s'écriait qu'il préférait le bagne. Elle ricanait et disait « Eh bien, soit tu iras au bagne. » Quoiqu'il entrât dans bien des détails, encore il était évident que Cheminot ne disait pas tout. Cependant, M. d'Aubigeon n'osait pas le questionner, craignant de rompre le fil de son récit. « Mais tout cela n'est rien, » continuait le vagabond. « Pendant que M. Jacques et Mme de Clodieuse se disputaient ainsi, je venais de voir la porte du salon s'ouvrir tout doucement et apparaître comme un fantôme enveloppé de son linceul. C'était le comte de Clodieuse. » Son visage était effrayant et il tenait à la main d'un revolver. Il était appuyé contre le chambranle de la porte et il écoutait pendant que sa femme et l'autre parlaient de leurs amours d'autrefois. À certaines paroles, il levait son arme comme pour faire feu. Puis il baissait le bras et continuait à écouter. C'était si terrible que je n'avais pas un fil de sec sur moi. J'avais toutes les peines du monde à me retenir de crier à M. Jacques et à Mme de Clodieuse. « Malheureux, vous ne voyez donc pas que le mari est là ?» Non, ils ne voyaient rien, car ils étaient comme fous de désespoir et de rage, et même M. Jacques levait la main sur Mme de Clodieuse. « Je vous défends de frapper ma femme, » dit alors le comte. Il se retourne, il le voit, et pousse un cri effrayant. La comtesse tombe comme une masse sur un fauteuil. J'étais comme hébété. Jamais je n'ai vu un homme si beau que M. Jacques en ce moment. Au lieu de chercher à s'échapper, il écartait son paletot et, présentant la poitrine, « Tirez, » disait-il au mari, « c'est votre droit, vengez-vous. » M. de Clodieuse ricanait. « C'est la justice qui me vengera. Vous savez bien que je suis innocent. Raison de plus. Me laisser condamner serait abominable. Je ferai mieux. Pour être plus sûr de votre condamnation, je dirai que je vous ai reconnu. » Le comte voulut s'avancer en disant cela. Mais il était mourant, cet homme, bonnes gens. Et il tomba tout de son long en avant. La peur alors me prit, je me sauvai. Grâce à un puissant effort de volonté, le procureur de la République maîtrisait, tant bien que mal, les émotions qui le bouleversaient. D'une voix fort altérée, « Comment n'êtes-vous pas venu raconter immédiatement tout cela ? » demanda-t-il à Cheminot. Le vagabond secoua la tête. « J'en ai eu envie, je n'ai pas osé. Monsieur le juge doit me comprendre. Je craignais qu'on ne me fît payer cher mon évasion. » « Votre silence exposait la justice à une déplorable erreur. Je ne pouvais croire que M. Jacques fût condamné. Je me disais, des gros comme lui, qui ont de bons avocats, s'en tirent toujours. Je ne pensais pas, d'ailleurs, que le comte de Clodieuse tînt ses menaces. Être trahi par sa femme, c'est dur, mais envoyer un innocent aux galères. Vous voyez, cependant. Ah, si j'avais pu prévoir. Mes intentions étaient bonnes, et si je ne suis pas venu tout de suite dénoncer la chose, je m'étais bien juré que je la dénoncerais s'il arrivait malheur à M. Jacques. Et la preuve, c'est qu'au lieu de me sauver bien loin, je me suis caché au Mouton Rouge, décidé à y attendre le jugement. Dès que je l'ai connu, je n'ai pas hésité, je me suis livré aux gendarmes. Surmontant son écrasante stupeur, M. Daveline s'était dressé. Cet homme est un imposteur, s'écria-t-il, l'argent qu'il nous a montré est le prix de son faux témoignage. Comment admettre son récit ? Nous allons le vérifier, interrompit M. Daubigeon. Il sonna et un huissier s'étant présenté. Mes ordres sont-ils exécutés ? Demanda-t-il. Oui, monsieur, répondit l'huissier, M. de Boiscourant et la bonne de M. de Clodieuse sont là. Introduisez la bonne. Lorsque je sonnerai, vous ferez entrer M. de Boiscourant. Cette bonne était une grosse saintongeoise à la taille plate et carrée. Elle était fort émue et avait un pouce de rouge sur les joues. Vous souvient-il, lui demanda M. Daubigeon, qu'un des soirs de l'autre semaine, un homme s'est présenté chez vos maîtres ?
Oh, très bien, répondit la brave fille. Je ne voulais pas le recevoir. Mais comme il m'a dit qu'il était envoyé par les juges, je l'ai fait entrer.
Le reconnaîtriez-vous ?
Parfaitement.
Le procureur de la République tira sa sonnette, la porte s'ouvrit, Jacques parut, l'étonnement peint sur le visage.
C'est lui ! S'écria la bonne.
Pourrais-je savoir ? Commença le malheureux.
En ce moment, rien, répondit M. Daubigeon. Retirez-vous et... bon espoir.
Mais tel qu'un homme pris d'éblouissement, Jacques demeurait immobile, les talons cloués au sol, promenant autour de lui un regard hébété de stupeur. Comment eût-il compris ? On était venu brusquement le tirer de sa prison, on l'avait amené au palais de justice, et là il trouvait en présence, frumant ce cheminot qu'il croyait bien loin, et la domestique de M. de Clodieuse. M. Galpin d'Aveline paraissait concerné. M. Daubigeon, la figure radieuse, lui disait d'espérer. D'espérer quoi ? Comment ? À quel propos ? Et Méchinet qui lui faisait des signes. Il fallut que l'huissier qui l'avait amené l'entraînât. Et tout aussitôt, « Maintenant, ma bonne fille, reprit le procureur de la République, est-ce que la visite de ce monsieur que vous venez de reconnaître n'a pas été signalée par certaines circonstances particulières ?»
Il y a eu, entre mes maîtres et lui, une scène très forte.
Vous y avez assisté ?
Non, mais je suis sûre de ce que je dis.
Comment cela ?
Ah, voilà ! Lorsque je suis montée prévenir Madame la Comtesse qu'un monsieur, qui venait de la part des juges, l'attendait au salon, elle s'est dépêchée de descendre en me commandant de rester près de Monsieur le Comte. J'ai obéi, naturellement. Mais Madame était à peine en bas, que j'entendis un grand cri. Monsieur, tout assoupi qu'il semblait être, l'entendit aussi, car il se haussa sur ses oreillers en me demandant où était madame. Je le lui dis, et déjà, il se retournait pour tâcher de se rendormir, quand de grands éclats de voix montèrent jusqu'à nous. « C'est bien extraordinaire, dit monsieur. Je lui proposai d'aller voir ce que ce pouvait être, mais il me défendit rudement de bouger. » Et comme les éclats de voix redoublaient, « C'est moi qui vais descendre, me dit-il, donnez-moi ma robe de chambre. » Malade comme il était, exténué, mourant, c'était une imprudence qui pouvait lui coûter la vie. Je me risquais à le lui faire remarquer, mais il me répondit en jurant de me taire et de faire ce qu'il m'ordonnait. Monsieur le comte, Dieu et son âme, était un bien brave homme, c'est certain, mais il était terrible aussi, et quand il se mettait en colère et qu'il parlait d'une certaine façon, tout le monde tremblait dans la maison, même madame. Je fis donc ce qu'il voulait. Pauvre homme, il était si faible qu'il ne tenait pas debout et qu'il se cramponnait à une chaise pendant que je l'aidais à passer sa robe de chambre. Alors je lui offris de le soutenir pour descendre l'escalier. Mais, me regardant avec des yeux effrayants, « Vous allez me faire le plaisir de rester ici, me dit-il. » Et si, en mon absence, quoi qu'il arrive, vous vous permettiez seulement d'ouvrir la porte, vous ne resteriez pas une heure à mon service. Il sortit là-dessus en se tenant au mur et je restai seule dans la chambre, toute tremblante et l'estomac serré, comme si j'avais pu deviner qu'il allait arriver un grand malheur. Cependant, je n'entendais plus rien et les minutes s'écoulant, je commençais à me dire que j'étais bien bête de me faire comme cela des idées, lorsque deux cris retentirent, mais si aigus et si horribles que j'en eus froid jusque dans les os. N'osant sortir, j'allais coller l'oreille contre la porte. Et je distinguais très bien la voix de monsieur se disputant avec un autre homme. Impossible de saisir un seul mot, mais je compris bien qu'il s'agissait de choses très graves. Tout à coup, un grand bruit sourd, comme celui de la chute d'un corps, puis encore un cri de terreur. Je n'avais plus une goutte de sang dans les veines. Heureusement, les autres domestiques qui étaient couchés avaient entendu quelque chose, ils s'étaient levés et ont marché dans l'escalier. À tout risque, je sors de la chambre, je descends avec les autres et nous trouvons dans le salon madame évanouie sur le fauteuil et monsieur étendu tout à plat sur le plancher et comme mort. « Qu'avais-je dit ? » s'écria Cheminot. Mais le procureur de la République lui fit signe de se taire et s'adressant à la bonne « Et le visiteur » demanda-t-il. « Parti, monsieur, envolé, disparu. » « Qu'avez-vous fait alors ?»« Nous avons relevé monsieur le comte et nous l'avons porté sur son lit. Nous avons fait revenir madame et le valet de chambre est allé chercher monsieur Saignebosse, le médecin. » Qu'a dit madame de Clodieuse lorsqu'elle a repris connaissance ?« Rien. Madame était comme une personne qui aurait reçu un coup de massue sur la tête. » « Il n'y a pas eu autre chose ?»« Oh, si, monsieur. » « Quoi ?» L'aînée de nos demoiselles, mademoiselle Marthe, a été prise de convulsions terribles.
Comment cela ?
Dame, je ne sais que ce que mademoiselle a raconté.
Répétez-le-moi.
Ah, c'est très singulier. Lorsque ce monsieur que je viens de reconnaître a sonné à notre porte, mademoiselle Marthe, qui était couchée, s'est levée et est allée se mettre à la fenêtre pour regarder qui c'était. Elle m'a vu aller ouvrir, une bougie à la main, et revenir suivie du monsieur. Elle allait regagner son lit quand il lui sembla voir une des statues du jardin remuer et se mettre à marcher. Tout ce qu'on a pu lui dire n'a servi à rien. Elle affirme qu'elle ne s'est pas trompée, qu'elle a bien vu cette statue s'avancer doucement le long de l'allée et venir se placer tout contre l'arbre le plus rapproché du salon.
Cheminot triomphait.
« C'était moi ! » s'écria-t-il. La bonne le regarda et, sans trop de surprise, « C'est bien possible » fit-elle.
« Qu'en savez-vous ? » interrogea M. d'Aubigeon.
« Je sais que ce doit être un homme qui s'était introduit dans le jardin, qui a fait tant de peur à mademoiselle Marthe, et voici pourquoi. M. Saignebosse, en se retirant, a laissé tomber une pièce de 5 francs qui est allée rouler juste au pied de l'arbre où mademoiselle dit avoir vu la statue. Le valet de chambre qui accompagnait le médecin l'a aidé à retrouver la pièce et en l'éclairant, il a très bien vu à terre des empreintes de souliers ferrés.
Les empreintes de mes souliers, interrompit Cheminot, et s'asseyant et levant les jambes, « Regardez plutôt mes semelles, monsieur le juge, disait-il. « Regardez si les clous y manquent. » Mais l'opinion du procureur de la République était faite. « Il suffit, dit-il au vagabond, je vous crois. » Et à la femme de chambre, « Et vous, ma fille, savez-vous si, à la suite de ces scènes, il n'y a pas eu d'explication entre monsieur et madame de Clodieuse ?»«
Je l'ignore. Seulement, madame et monsieur n'étaient plus du tout ensemble comme avant. »
Elle ne savait rien de plus. Après lui avoir fait signer le procès-verbal de son interrogatoire, M. d'Aubigeon la congédia. Puis, s'adressant à Cheminot, « On va vous conduire en prison, lui dit-il, mais vous êtes un brave garçon et vous pouvez être sans inquiétude. Allez !» Le procureur de la République et le juge d'instruction restaient seuls puisqu'il est entendu que le greffier n'existe pas. « Eh bien, commença M. d'Aubigeon, que dites-vous de cela ?» M. Davelin était atterré. C'est à confondre l'esprit, murmura-t-il. Commencez-vous à croire que Maître Folga avait raison,
que l'affaire n'était pas aussi claire que vous le prétendiez. Et qui ne s'y fût trompé comme moi ? Vous-même, à un moment, n'avez-vous pas été de mon avis ? Et cependant, si Jacques de Boiscourant et Madame de Clodieuse sont innocents, qui donc est coupable ? C'est ce que nous saurons bientôt, car je suis fermement résolu à ne pas goûter un instant de repos avant d'avoir fait éclater la vérité. Quel bonheur que des vices de forme frappent le jugement de nullité. Il était tellement ému qu'il oubliait ses éternelles citations. S'adressant au greffier, « Mais il n'y a pas une minute à perdre, reprit-il. Prenez vos jambes à votre cou, mon cher Méchiné, et courez prier Maître Folguin de passer au parquet. Je l'attends. »